Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein? Par exemple, bon, il y en a plein, hein? Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce jeudi 12 juin. Aujourd'hui, on va parler chaleur, il fait chaud, l'été arrive, les vacances aussi. Nous aurons une chronique de Héloïse justement sur les vacances d'été et certains travailleurs saisonniers à quatre pattes parfois. Et on va parler aussi pas mal d'incendies et de réchauffement climatique, une fois n'est pas coutume. Mais on s'intéressera aussi à l'actualité de la guerre qu'Israël mène à Gaza et aussi de son traitement médiatique. Ça sera dans la deuxième partie de cette émission avec une interview réalisée avec Antoine Corlet pour nous parler d'un événement qui aura lieu à Ganges le mardi prochain de l'autre côté. On commence tout d'abord avec justement des informations qui nous viennent de cette marche vers Gaza qui débute aujourd'hui même au Caire en Égypte avec 6000 activistes qui sont en train d'arriver, qui arrivent déjà depuis quelques jours. Ils viennent de plus de 52 pays du monde et ils s'apprêtent donc à entamer une marche pacifique de 48 km vers la bande de Gaza pour réclamer un couloir humanitaire. Bien, hier, plusieurs dizaines de participants étaient retenus, expulsés ou bien interrogés au Caire dès leur arrivée de l'avion, principalement des Français bloqués à l'aéroport depuis l'aube, certains d'ailleurs sans eau ni nourriture. Un responsable de la délégation française pour cette marche affirmait que les autorités égyptiennes arrêtaient presque systématiquement les ressortissants français faute de disposer d'une liste officielle des participants, puisqu'il n'est pas nécessaire de s'inscrire pour ou d'annoncer son arrivée pour se joindre à cet énorme événement qui, je vous l'ai dit, regroupe des citoyens du monde entier. Des descentes de police ont également eu lieu dans plusieurs hôtels du centre du Caire, où des membres de différentes délégations séjournaient. Plusieurs personnes ont été interpellées ainsi dans leur chambre d'hôtel. Du côté du gouvernement français, on avait été informé de cette mobilisation, mais les autorités restent très silencieuses malgré les appels à l'aide des organisateurs. Et d'ailleurs, l'ambassade française au Caire dit n'avoir reçu pour sa part aucune information. Pour ce qui est de cette marche, donc c'était un rendez-vous donné aujourd'hui, ce jeudi 12 juin, un rendez-vous au Caire pour poursuivre la marche mondiale vers Gaza. L'objectif, c'est que tous ces participants prennent des bus vers la ville d'El Arish dans le Sinaï, dans le désert du Sinaï, puis d'effectuer à pied les 48 km, 50 on va dire, qui la séparent du poste frontière de Rafah, avec une arrivée prévue ce dimanche. Rafah, au poste frontière où l'aide humanitaire entre au compte-gouttes, bloquée par les autorités israéliennes. L'objectif, c'est donc de rallier symboliquement à pied cette zone proche de Rafah pour appeler donc la communauté internationale et les gouvernements israéliens à ouvrir un passage pour les convois humanitaires vers la bande de Gaza. Ça va être historique, c'est la première fois depuis le début de la guerre que les citoyens du monde se réunissent pour exprimer leur humanité vis-à-vis des Gazaouis. Se réjouissait par exemple une coordinatrice de cette délégation française, elle s'appelle Gabi, une délégation française qui compte environ 500 personnes, dont 70% de femmes. En tout, je vous le disais, 52 délégations issues des pays du monde entier sont attendues en Égypte. Cette action pacifique est soutenue notamment côté français par l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin ou le médecin humanitaire Ronnie Broman. Du côté des institutions, le soutien en revanche est quasi inexistant. Ainsi, aucune grande ONG française ne s'est engagée dans cette marche, déplorant des membres de cette coordination. Seules quelques voix individuelles donc se sont élevées pour soutenir l'initiative. Malheureusement, il est possible, à l'instar de la flottille de la liberté, que les marcheurs n'atteignent jamais leur objectif, à savoir le désert du Sinaï, puisque les autorités égyptiennes n'ont pas donné de feu vert pour cette mobilisation, alors que le convoi est censé partir du Caire demain matin. Depuis le début de la guerre, le régime de fer du président Abdel Fattah al-Sissi, qui pourtant publiquement condamne les méfaits de l'armée israélienne et accueillit par de nombreuses fois des négociations de trêve, eh bien, il interdit toute manifestation de soutien à la Palestine dans les rues de ces villes. Plusieurs activistes égyptiens ont d'ailleurs été emprisonnés ces derniers mois, puisque pour le gouvernement, des fois, cette mobilisation fait collusion avec les critiques envers justement le gouvernement égyptien. C'est d'ailleurs pour cette raison que les organisateurs déconseillent fortement aux ressortissants égyptiens de venir participer à cette marche qui se déroule pourtant sur leur territoire. Et pour clore ce chapitre, on peut aussi citer, je vous en ai parlé déjà ce mardi, la marche des mères israéliennes qui a lieu donc en Israël. C'est le deuxième jour. Elles vont de caserne en caserne pour tenter de stopper la guerre et avec le désir de ramener à la maison leurs enfants soldats, puisque vous le savez, l'armée israélienne est composée principalement de conscrits, donc c'est obligatoire quand on est citoyen israélien d'y aller, ou alors on s'expose si on refuse, notamment à des emprisonnements. Elles appellent ainsi ces mères israéliennes, toute la population, à les rejoindre dans leur marche pour justement elles aussi regagner la frontière. Tandis qu'à ce soir, une nouvelle grande manifestation a lieu à Tel Aviv, une manifestation pour la paix, mais aussi pour dégager Netanyahou, disons-le simplement, et demander la libération des otages. Et plusieurs dates donc un petit peu symboliques, puisque demain c'est aussi la Gay Pride de Tel Aviv, avec certainement, comme celle qui a eu lieu à Jérusalem il y a quelques jours, là aussi des appels à mettre fin au génocide de Gaza. Voilà, plus tard, d'ici une bonne quinzaine de minutes dans ce journal, on parlera du traitement médiatique de la situation à Gaza depuis le 7 octobre, autour du livre justement qui s'intéresse à cela, un livre de Meriem Larribi qui sera à Ganges mardi prochain pour le présenter à 20h de l'autre côté. Et on en parlera avec Antoine Corlet qui a justement présidé à l'organisation de cette soirée. Allez, on part au Grand Nord, dans le Canada, où il fait décidément très chaud et ça brûle. Les habitants d'une ville proche de Vancouver, donc au Canada, étaient presque évacués hier en raison d'un des nombreux feux de forêt actifs dans le pays, où les autorités justement prévoient que cette saison des incendies va encore prendre de l'ampleur. Des incendies qui rappellent les méga-feux de 2023 qui ont traumatisé une partie de la population canadienne. Les feux de forêt, comme chaque année, ne cesse de gagner en intensité avec l'augmentation des températures. Le pays connaît une saison des feux de forêt précoce et extrême, avec déjà aujourd'hui plusieurs méga-feux actifs. Ces derniers dévorent les terres à un rythme jamais vu, puisque 3,5 millions d'hectares sont déjà partis en fumée, ce qui fait un peu plus que la superficie de la Belgique. Le Canada, un territoire très vaste et recouvert principalement de forêts. Ces feux hors de contrôle, qui touche une petite ville à côté de Vancouver, a rapidement grossi dans les dernières heures et il atteint actuellement 20 hectares qui menacent directement le district de Squamish avec ses 25 000 habitants. Les autorités locales ont déclaré l'état d'urgence et prévenu d'ailleurs une partie des habitants d'être prêts à évacuer à court terme. De manière plus générale, ce sont environ 225 feux qui sont actuellement actifs dans le centre et l'ouest du pays et plus de 30 000 personnes ont déjà dû être évacuées. Ces incendies de forêt risquent encore de s'aggraver au cours des 3 prochains mois, ont prévenu les autorités, en raison de la sécheresse de la végétation et des températures qui sont largement supérieures à la normale. L'intensité des feux rappelle l'été 2023, qui fut apocalyptique, avec près de 18 millions d'hectares brûlés. Et ces feux avaient par ailleurs libéré l'équivalent de 3,5 fois les émissions de CO2 annuelles de la France, pour vous donner un petit ordre de grandeur de l'impact aussi climatique que cela peut avoir. Le Canada se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de la planète et il est confronté à de plus en plus d'événements météorologiques violents. Liés au changement climatique d'origine humaine, la hausse de ses températures entraîne donc moins de neige, des hivers plus courts et plus doux et des conditions estivales plus précoces, tout cela favorisant les incendies, expliquent les experts. Selon des données recueillies par les autorités, la plupart de ces incendies ont été déclenchés par les activités humaines, le plus souvent accidentellement, dans un environnement très sec. Et vous l'aurez certainement remarqué, et je vous en ai déjà parlé, une des conséquences de ces feux est directement visible pour nous, puisque ce ciel voilé est en effet dû aux immenses panaches de fumée qui nous parviennent de l'autre côté de l'Atlantique et qui ont traversé au gré des vents et terni donc le ciel de l'ouest de l'Europe tout ce week-end de la Pentecôte, et cela continue. D'ailleurs, on peut se demander si c'est dangereux, hein, puisque le ciel est donc rempli de microparticules. Ces fumées de feux de forêt contiennent en effet des particules fines, dont des particules submicroniques. Microniques, oui, c'est ça. Ça veut dire dont la taille est inférieure au micron, au millionième de mètre. Les fumées des feux contiennent par exemple du monoxyde de carbone ou de nombreuses autres substances chimiques, en passant de dérivés pétroliers jusqu'à des métaux lourds. L'inhalation donc de ces fumées à court terme, vu que ce sont des particules vraiment très très fines, peut provoquer des effets respiratoires, essentiellement des symptômes respiratoires d'irritation qui vont toucher pas mal de personnes sensibles. L'inhalation de ces fumées peut entraîner des visites des urgences ou des hospitalisations pour des maladies respiratoires comme l'asthme ou d'autres maladies pulmonaires chroniques, voire provoquer une modification de la fonction pulmonaire, explique l'Agence de sécurité sanitaire européenne. On peut aussi observer d'ailleurs des effets cardiovasculaires. Pour l'instant, de notre côté, la qualité de l'air ne semble pas être si catastrophique. L'Agence Copernicus de surveillance européenne se veut rassurante pour le moment. D'après les prévisions, le transport de fumée prévu ne devrait pas avoir d'impact significatif sur la qualité de l'air en surface, car ces épisodes ont tendance à se produire à haute altitude. En effet, les fumées donc provenant du Canada étaient d'abord annoncées se passer à 9000 mètres d'altitude au-dessus de nous. Mais en effet, depuis, les mesures ont montré que les fumées étaient bien plus basses. C'était par exemple le cas dans les Bouches-du-Rhône ce lundi, où les fumées évoluent à 4000 mètres d'altitude. Sur le site météoparis.com, le mardi 10 juin, les fumées se trouvaient principalement entre 1000 et 3000 mètres d'altitude, donc au-dessus de Paris. Mais il précisait qu'au niveau du sol, la qualité de l'air restait bonne. Malgré tout cela, AtmoSud, c'est l'observatoire de qualité de l'air pour la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a déjà pas mal à faire avec notamment la pollution industrielle, observatoire de qualité de l'air a émis une vigilance pollution pour ce mardi sur quelques départements. Et on peut noter par exemple qu'en Suisse, qu'on imagine plutôt un pays avec une qualité de l'air irréprochable, les fumées en provenance du Canada ont rendu l'air irrespirable dans certaines régions. Des stations de mesure ont affiché hier des valeurs considérées comme malsaines, bien au-dessus des normes autorisées par les valeurs européennes. Les valeurs limites légales ont été dépassées en de nombreux endroits. Bon, alors quelles précautions prendre en cas de pic de pollution, même si, vous l'aurez compris, ça concerne souvent, bien principalement, les gens qui habitent en ville, puisque ça se rajoute à tout ce qui est induit par le trafic automobile. L'alerte, en tout cas, est lancée par les autorités quand on arrive sur des particules PM10. C'est-à-dire des particules dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres. Pour l'instant, donc pas d'alerte, mais tout cela peut évoluer très vite, car ce qui brûle en ce moment au Canada peut nous impacter dans plusieurs jours. Donc on va continuer à regarder ça, expliquer notamment une scientifique qui travaille dans un de ces organismes de surveillance de la qualité de l'air. Et ça ne part pas. Pardon, désolé, j'avais un bouton qui ne veut pas marcher. Les joies du direct. Puisqu'on parle de chaleur, c'est un triste record de plus pour les glaciers. On reste sur la calotte glaciaire et le pôle Nord encore, puisqu'entre le 14 et le 21 mai, la calotte glaciaire du Groenland a fondu 17 fois plus rapidement que la moyenne pour cette période de l'année. C'est un rapport qui a été publié hier par le réseau scientifique World Weather Attribution. La fonte de cette calotte glaciaire est provoquée par des températures inédites pour la saison. Dans l'est de l'île, alors je vais essayer de prononcer le nom de la commune, Itokortomit, je pense, on a mesuré 14,3 degrés Celsius le 19 mai dernier, ce qui est juste 13 degrés de plus que le maximum journalier normalement pour ce mois de mai. Cette vague de chaleur touche d'ailleurs également l'Islande, voisine du Groenland. Des températures records avec 13 degrés de plus que le maximum journalier moyen sur une période de 91 à 2020. Le changement climatique rend ces extrêmes de chaleur plus intenses et 40 fois plus probables dans cette région d'après la même instance de surveillance. Ces vagues de chaleur vont perturber grandement des régions qui sont adaptées au froid, notamment en faisant fondre les terres gelées du pergélisol, ce qui va causer des dégâts sur les infrastructures, qui sont d'habitude posées sur de la glace, mais menacer également la sécurité alimentaire et pouvant surtout entraîner le relâchement de métaux toxiques dans les lacs arctiques. Voilà une des graves conséquences qui nous pendonnaient avec la fonte des terres glaciaires. En accélérant la fonte de ces glaces, le changement climatique perturbe aussi dangereusement l'océan et fait aussi monter le niveau des mers, Ainsi, le Groenland perdait environ 40 milliards de tonnes de glace par an dans les années 70. On était dans les années 2010 à 280 milliards de tonnes, ce qui fait 7 fois plus. Ça, c'est une étude de l'Académie nationale des sciences des États-Unis. Et ce chiffre pourrait même être passé ces dernières années à 500 milliards de tonnes par an.
Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
Et puisqu'on parle d'été, on va parler moustiques et démoustications. Dans la nuit du 5 au 6 juin dernier, les habitants d'un quartier de Cagnes-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes ont pu être réveillés par une intervention de démoustication. Tout leur quartier, y compris l'école, a été pulvérisé pendant la nuit d'insecticides spéciaux. Et ce sont des initiatives qui se multiplient de plus en plus, notamment pas mal dans les communes du Sud. Il y a une concentration de personnes, les élèves, les professeurs. C'est une action préventive, expliquait l'adjoint à la santé de la ville. En effet, dans la semaine dernière, une rue avait aussi été démoustiquée. Ce sont des véhicules qui passent et qui pulvérisent donc des substances nocives pour les moustiques. La mairie avait été prévenue par l'ARS, l'Agence régionale de santé, de 2 cas de dengue importés. Et c'est ce qui a donc accéléré le processus pour mettre en place cette démoustication. Les cas de dengue importés, il s'agit de personnes qui ont contracté la maladie hors de la métropole. Mais une fois revenus en France, ont pu être diagnostiqués et donc sont contagieuses. Après une année record pour cette région PACA en 2024, l'ARS reste donc vigilante face à une nouvelle saison d'épidémie à risque et c'est sur tout le territoire national que cela se présente. Depuis le 1er mai, c'était le début de la surveillance renforcée. C'est une période justement où les autorités sont vraiment sur le coup sur tous les cas rapportés liés à des moustiques. Ainsi, en France métropolitaine, on a pu noter depuis le 1er mai 283 cas de dengue, 424 pour le chikungunya et 2 cas de Zika, tous importés donc. Si on remonte au mois de janvier, d'ailleurs, ça fait depuis le début de l'année 2025 environ 1100 cas de dengue et plus de 900 de chikungunya. Et ça se répertorie un petit peu sur tout le territoire puisqu'on a 81 départements touchés. Ça fait 84% des départements en métropole. Parmi lesquels, bien entendu, les régions du Sud, l'Occitanie, la région PACA ou Aquitaine sont les bien plus concernées par ce fléau que d'autres territoires. Alors, au-delà du risque de circulation de la dengue, ce début d'année est aussi marqué par un risque particulièrement accru d'importation et de circulation du virus du chikungunya. C'est une des épidémies qui est très surveillée. C'est ce qu'expliquait notamment le ministère de la Santé et Santé publique France. La dengue et le chikungunya, à moyen terme, pourraient en plus devenir endémique en Europe en raison du réchauffement climatique qui favorise la propagation donc du fameux moustique tigre, au même titre d'ailleurs que l'urbanisation et les déplacements de plus en plus fréquents de personnes justement dans des régions tropicales. Quelques petits conseils au cas où, pour vous rappeler avec le début de cette saison chaude, éliminer toutes les eaux stagnantes à l'intérieur et autour des habitations, les dessous de peau, les bâches, les déchets, les gouttières, etc. Puisque dans la moindre petite flaque, les moustiques arrivent à pondre énormément de larves et qu'ils ont un cycle de reproduction très très court. Puis enfin, pour éviter de se faire piquer, le mieux c'est quand même de porter des vêtements longs et amples, utiliser des répulsifs ou pas, et surtout installer des moustiquaires un peu partout, puis en plus c'est sympa de dormir sous une moustiquaire. Santé publique France précise qu'en cas de symptômes, que ce soit des douleurs articulaires ou musculaires, des maux de tête, des éruptions cutanées, des conjonctivites, avec ou sans fièvre, tout cela après des piqûres, il est important de consulter sans attendre un médecin, en précisant justement avoir séjourné dans une zone où circulent les virus du chikungunya, de la dengue ou du Zika.
L'empire a une terre saine. De ces trois choses, n'en plus une seule. Voilà. Et on se vante de la civilisation et du progrès. Voilà, qu'est-ce que c'est ?
C'est l'heure de retrouver Héloïse et sa chronique. Héloïse qui est en stage avec nous, qui est en école de journalisme et qui va aussi nous parler d'animaux et de la saison estivale qui s'annonce.
Et oui, bonjour à tous. Le mois de juin est déjà bien entamé, les vacances approchent. Pour beaucoup, l'été sera synonyme d'évasion, d'ailleurs et de voyage. On rêve de paysages lointains, d'expériences inoubliables et parfois d'un cliché avec un animal sauvage. Que ce soit un éléphant en Thaïlande, un tigre dans un sanctuaire en Asie ou un cheval sous le soleil d'Europe, une belle image sur les réseaux, un souvenir unique. Mais derrière ces instants figés, il y a souvent un monde que l'on ne regarde pas, celui du tourisme animalier et de ses dérives. Chaque été, des millions de touristes participent sans le savoir à des activités qui impliquent de la souffrance animale. Même si, à première vue, certaines ne semblent pas en être. Ces balades à dos d'éléphants ou même ces simples photos avec des animaux en cage ne sont pas des expériences anodines. Ils sont la face souriante d'une industrie qui capture, dresse, exploite et parfois brise des êtres vivants à des fins purement lucratives. Tenez, commençons par les éléphants. Ils sont grands, impressionnants même. On se dit que s'ils n'en avaient pas envie, ils ne le feraient pas. Et puis, de toute façon, ce n'est pas moi, en montant 5 minutes dessus, qui changera quelque chose. Puis, on se dit que c'est bon, qu'il fait 40 degrés, qu'on ne va tout de même pas marcher. Puis, monter sur un éléphant, c'est une fois dans une vie. Padjan. Ce mot ne vous évoque sûrement rien, alors laissez-moi vous éclairer. Padjan, littéralement, briser l'esprit. Un processus lent qui commence avec l'isolement des éléphantaux, arrachés à leur troupeau malgré leurs instincts grégaires. Les petits sont ensuite privés de nourriture, tout en subissant des coups répétés. Padjan, le nom qui désigne le processus de dressage des éléphants, briseur d'esprit. Malheureusement, ce phénomène ne concerne pas que les espèces exotiques. Plus près de chez nous, les balades à dos de dromadaires, les tours de calèche dans des villes brûlantes ou encore des chevaux fatigués qui attendent des heures sous le soleil, tous font partie de ce décor touristique. Bien trop souvent mal nourris, mal hydratés, épuisés à force d'enchaîner les allers et retours pour divertir les vacanciers. Alors oui, c'est tentant de se laisser porter, mais il vaut parfois mieux user ses chaussures que les pattes d'un animal. Idem pour ces soi-disant sanctuaires où les félins dorment paisiblement sous les flashs de vos téléphones. Vous vous tenez derrière cette vitre qui assure votre sécurité. Les animaux font la sieste au soleil et l'ours polaire, a même une piscine pour faire trempette. Quelle vie de rêve! En réalité, ils sont dépouillés de toute stimulation, souvent drogués et tranquillisés pour assurer bonne figure au parc et vous garantir une photo qui ne sera pas trop floue. Et la maltraitance ne se trouve pas qu'à l'autre bout du monde. Ici aussi, en France, les animaux peuvent souffrir sous couvert de divertissement. L'été dernier encore, des vidéos montraient des chevaux montés toute la journée dans des centres de loisirs, sous 35 degrés, sans pause. À Paris, à Nice, à Montpellier, dans vos villages, les calèches touristiques continuent de circuler tandis que l'asphalte fond. Dans les marchés et les festivals, les balades à poney font partie intégrante du décor, sans que l'on se demande vraiment ce qu'en pensent les intéressés. On aime dire que la France aime les animaux, mais bien souvent, c'est à sens unique. Alors cet été, si vous avez la chance de voyager, posez-vous cette question simple. Est-ce que cette activité existerait encore si l'animal avait le choix d'y participer? Si la réponse est non, c'est peut-être qu'il vaut mieux marcher, observer ou même s'émerveiller sans chercher à contrôler. Parce que parfois, aimer les animaux, c'est justement ne pas chercher à les approcher.
Merci beaucoup Héloïse pour ce message très habité. On enchaîne. Et on termine comme promis, avec cette petite interview qui s'intéresse à un rendez-vous auquel vous êtes conviés mardi prochain, donc le 17 juin à 20h à Ganges. Un rendez-vous en lien direct avec l'actualité de la guerre en ce moment qu'Israël mène en Palestine. Ça se passe donc au local de l'autre côté, un rue Biron à Ganges. Et c'est une rencontre à laquelle vous êtes conviés avec Meriem Laribi, qui est une journaliste et qui vient d'écrire un livre qui s'appelle « 6J, l'humanité, Gaza, le génocide et les médias ». Voici le petit résumé qui est disponible sur les sites de vente en ligne du livre. Meriem Laribi est journaliste indépendante. Tel un journal de bord, cet ouvrage retrace sa veille médiatique d'une année de génocide commis par Israël à Gaza, du 7 octobre 2023 au 7 octobre 2024. Suivant les événements au fil des semaines, elle démasque les fausses informations et la propagande qui se déversent dans les médias, afin de nous livrer une histoire immédiate du premier crime contre l'humanité diffusé sur les réseaux sociaux. Refusant toute fausse neutralité face à la barbarie, l'auteur fait part de l'horreur et parfois du désespoir qui peuvent l'envahir face à cette tragédie, mais sans jamais la faire renoncer à mener la bataille de la vérité. Nous en avons parlé au téléphone avec Antoine Corlet, qui est un jeune journaliste à l'initiative justement de cette invitation. Il nous a livré par téléphone quelques éléments de contexte sur la mise en place de cette venue donc de Myriam Larribé et aussi sur la manière dont lui a reçu ce témoignage.
Je suis journaliste indépendant et je collabore notamment avec un média qui s'appelle Off Investigation et pour lequel je chronique pas mal de livres enquêtes de journalistes. Donc à l'occasion de cette collaboration-là, j'ai chroniqué le livre de Myriam Larribé et ça m'a fait l'effet un peu d'une déflagration, quoi. À partir du 7 octobre, elle rapporte un an d'horreur à Gaza et donc j'ai lu des choses que j'avais pas vues ailleurs. Et donc vu l'impact que ça a notamment autour de chez nous, à Ganges notamment, avec le collectif Palestine Solidarité qui occupe le rond-point chaque mardi depuis plus d'un an et demi, je me suis dit que c'était le lieu aussi où ça me semblait bien en fait de créer du débat autour de cette question-là, d'analyser un peu la faillite médiatique, quoi. C'est quoi le traitement qui en a été fait, quel est le récit en fait.
Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu le profil justement de cette journaliste, la Myriam Larribé?
Ouais, alors elle se définit comme elle est journaliste indépendante sur le tard, elle est franco-algérienne, elle assume justement le fait d'être originaire d'un pays colonisé, donc son livre parle aussi de colonisation et d'impérialisme, donc elle s'inscrit complètement dans ce mouvement-là. Elle collabore avec un site spécialisé qui s'appelle Orient 21. À mon sens, les mieux informés sur toutes les actualités au Moyen-Orient et notamment sur la guerre et le génocide. Donc elle collabore avec ce média-là, le Monde diplomatique aussi. Et elle a fait un passage à RT à l'époque où RT existait, notamment pendant les Gilets jaunes. Elle revient sur quelques pages dans son livre sur cette expérience-là. Et aujourd'hui, elle reste journaliste indépendante, elle collabore avec ses médias, mais indépendante et donc dans une situation pas forcément toujours très simple.
Donc elle, évidemment, elle a les yeux rivés sur la situation en Palestine depuis 7 octobre, mais depuis avant aussi, hein, quand même, il faut rappeler que c'est pas une situation qui est nouvelle, même si médiatiquement ça a fait un petit peu un gros tournant. Elle, donc c'est depuis cette place-là un petit peu qu'elle témoigne et qu'elle a écrit ce bouquin.
Oui, complètement, en fait, c'est à mon sens ce qui fait aussi l'originalité de ce livre, c'est qu'elle assume complètement un parti pris, mais qui est fondé, en fait, comme tous les journalistes occidentaux. Elle n'a pas pu se rendre sur place parce que Gaza est enfermée. Elle n'a pas accès, comme beaucoup d'autres gens, au terrain là-bas. Et donc, en fait, elle a écrit ce livre en faisant référence uniquement en fait, à des journalistes palestiniens et palestiniennes sur place. Ce que n'ont pas fait la plupart en fait, des médias occidentaux qui reprenaient des informations là-bas sans citer ou alors même en invisibilisant ces voix-là. Et donc, elle, en fait, cette démarche, elle vise aussi à redonner une voix à des journalistes qui ont subi de plein fouet cette guerre et ces attaques-là. Et voilà, c'est une position qui, pour moi, est assez originale, notamment dans le paysage médiatique, puisqu'en plus de ça, elle raconte son expérience au Quai d'Orsay et au Point Presse de l'Élysée, hebdomadaire qu'il y avait chaque semaine. Et donc, elle posait des questions de manière très insistante sur ce qui se passait là-bas, la position de la France. Et elle était confrontée aussi à une forme de mépris de certains autres journalistes qui, eux, étaient complètement insérés, en fait, dans les pôles du Quai d'Orsay et de l'Élysée et qui lui renvoyaient une image presque d'illégitimité, en fait. Elle avait presque pas sa place. Enfin, elle rapporte des propos qu'on lui a tenus qui sont de cet ordre-là, quoi. Donc, il y avait elle et un journaliste du média et on leur faisait comprendre, notamment à elle, qu'ils dérangeaient, en fait, avec leurs questions et qu'ils faisaient pas le même métier, en fait. Donc, ce livre, il raconte aussi ça. Il raconte aussi c'est quoi le métier de journaliste, notamment politique, quoi.
Tu parlais de fait de suivre des journalistes sur place. C'est vrai que ce conflit, en tout cas avec l'explosion technologique de ces 10-20 dernières années, notamment les portables et les réseaux sociaux, permet d'avoir des vraies informations de sources en temps réel, même au cœur du pire conflit du monde.
Complètement.
Il y a des vidéos, il y a des tweets, il y a des choses comme ça, donc l'info, elle est vraiment disponible.
Disponible pour même des journalistes restés sur place et qui peuvent complètement en fait vérifier les informations qui sont reçues de chez nous. Et donc en fait ce travail-là, il a rarement ou peu en tout cas été fait par des journaux ou notamment des chaînes de télé qui ont une certaine audience. Voilà, elle fait ce travail en fait de vérification, alors même qu'elle a écrit ce livre de chez elle. Preuve en est en fait que c'était possible de le faire et donc elle rend compte en fait presque d'une forme de partialité, presque de paresse journalistique, ou en tout cas, oui, de... c'est une construction aussi, hein. Ça renvoie vraiment à ce que c'est d'être journaliste occidental et de couvrir un conflit comme celui-là, une guerre comme celle-là, de notre position en France.
Oui, et puis on voit sur les conflits, que ce soit celui-là ou celui entre l'Ukraine et la Russie, enfin l'invasion de l'Ukraine, qu'il y a clairement de la part des États, en tout cas des puissances qui sont derrière les armées, quel que soit le côté, une bataille pour le discours, en fait, qui va permettre de légitimer ou pas, en pointant des horreurs. Bon, on sait qu'il y a eu des polémiques, notamment par rapport à l'armée israélienne et des deux côtés aussi sur qui aurait décapité le plus d'enfants quasiment. Enfin, et comme quoi ça légitimerait des choses qui sont aussi structurelles, etc. Et donc il y a vraiment une bataille à faire là-dessus. On s'en rend compte. Et selon à qui appartiennent les chaînes de médias aussi, on va avoir des faits divers comme ça monter. Enfin, faits exactement. Divers, c'est un peu. J'ai pas envie de féminiser ce qui s'est passé du tout, mais en tout cas des détails qui sont pris ensuite pour. Comme argument implacable.
Oui, bien sûr. Bah, elle revient aussi en partie. Moi, je l'ai appris. J'en avais pas ce détail-là, mais la stratégie de communication en fait de Tsahal, l'armée israélienne, qui a un nom, hein, s'appelle Hashbara, et en gros, c'est une stratégie de propagande extrêmement agressive et guerrière qui profite d'un relais international. C'est l'une des armées en fait quasiment les plus volubiles du monde. Enfin. Elle parle de manière très incessante, elle a des représentants dans énormément de médias en France. Bon, on voit ce porte-parole de l'armée israélienne qui a écumé en fait les plateaux télé, notamment sur la chaîne
I24. Ils sont venus montrer même des vidéos à l'Assemblée, il me semble, au début, après le 7 octobre.
Oui, oui. Mmh. Oui, tout à fait, ouais. Mais donc voilà, il y a quand même une stratégie derrière. Et aussi, il y a de la désinformation massive, en fait. Notamment sur, comme tu le disais, le meurtre d'enfants. Et on sait en fait que désinformé ou mal informé, c'est déshumanisé en fait, d'une certaine façon. Et donc, le mérite de ce livre pour moi, c'est aussi ça. C'est de nommer les auteurs, les alliés aussi de fait de ce génocide-là, mais aussi les gens qui en sont directement les victimes, quoi. Les femmes, c'est un conflit qui atteint directement les femmes, les enfants, c'est les enfants et les femmes et les personnes âgées sont les principales victimes en fait de ce conflit. Et donc voilà, il y a des personnes dont il faut rappeler le nom et la place. Et je pense que son livre sert aussi à ça. C'est un témoignage sur le temps long, quoi, qui s'inscrit sur le temps long en tout cas.
Et alors, puisque toi aussi tu es journaliste, que là, bon, je sais pas. Quand est-ce que vous aviez calé ce rendez-vous? Mais il se trouve que l'actualité, bon, elle bouge toujours beaucoup du côté de la Palestine. Mais là, il semble y avoir un petit changement de vent, en tout cas, de la manière dont en France, en tout cas, on traite les questions d'aide humanitaire et de famine sont vraiment de plus en plus évidentes, même à ceux qui ne veulent pas le voir. Qu'il y a eu cette histoire de flottille de la liberté, là, avec quelques militants qui viennent de se faire arrêter au large. De manière générale, la communauté internationale a une position assez clair sur ce qui se passe, mais en France ils sont très très frileux, et là on voit dans les chaînes un peu, on va dire, qui se mouillent pas d'habitude, des modifications en tout cas d'éléments de langage. Et est-ce que tu sens ça aussi, et quel espoir ou pas ça vous donne? Est-ce que vous avez pu échanger là-dessus peut-être avec Mariam? Je sais pas.
C'est très clairement un sujet qu'on va aborder de toute façon mardi, ne serait-ce que sur l'exemple de la flottille pour la liberté qui finalement me semble aussi symbolique de ce qui se passe toujours. C'est-à-dire que tu allumes ta télé, je vais nommer les chaînes, hein, mais tu allumes BFM, par exemple, une éditorialiste politique parle de Rima Hassan en des termes qui sont pour moi peu journalistiques ou peu déontologiques. Il y a des éditorialistes qui avancent toujours une flottille de pacotille, alors que voilà, qui remettent en question en fait l'initiative en elle-même. Je pense que certains éditorialistes ne sont pas pour moi des journalistes, pour le coup, pas au sens où je dis que Mehrem Larribi est journaliste, c'est-à-dire qu'il ne vérifie pas, il n'essaye même pas de rentrer en contact avec les personnes sur place, ce que d'autres médias ont pu faire. Donc voilà, il y a toujours un peu un fond comme ça de partialité, mais c'est vrai que depuis quelques mois, sans doute, je pense, suite à la suite de pressions populaires. Je pense que ça se multiplie partout dans le monde. Si on décentre un peu le regard, je pense que on peut voir aussi un soutien massif qu'il y a à l'endroit du peuple palestinien. Et donc, je pense qu'au fur et à mesure, pression diplomatique aussi énorme. Certaines ambassades, notamment en Amérique latine, ou en Irlande,
aussi.
En Europe.
L'Espagne, voilà, qui en tant que gouvernement se positionne aussi.
Voilà, ouais, c'est ça. Donc je pense qu'aussi certains médias peut-être prennent le pli de ça et commencent à revoir un peu leur traitement qui était complètement binaire et qui, je pense, intégrait complètement les possibles accusations d'antisémitisme, se faisait le relais d'institutions ou de lobbies qui étaient extrêmement influents. Enfin, oui, il y a un mouvement en tout cas. Je pense que c'est heureux en fait que ça arrive.
Et puis ces médias ont aussi participé à invisibiliser d'ailleurs des mouvements, que ça soit en Israël même, de population, une partie de la population qui est quand même très hostile à Netanyahou et qui l'était d'ailleurs bien avant le 7 octobre. Et puis même à l'intérieur de la Palestine, malgré la galère, il y a quand même beaucoup de gens aussi qui critiquent le Hamas et qui aimeraient bien aussi s'en débarrasser. Ou en tout cas, enfin, voilà, il y a quand même des voix multiples dans tous les espaces. Et c'est vrai que les médias ont tendance à... Voilà, suivre des lignes rouges qu'on impose, c'est les gentils, les méchants, selon du côté où on veut se mettre, mais il n'y a même pas de nuance là-dedans, quoi.
Ouais. C'est clair. Alors que c'est un sujet qui doit être inscrit dans le temps long, avec un qui est en fait il faut lui donner une lecture coloniale et impérialiste. Et je pense que l'un des gros avantages en fait de cette couverture-là et des critiques qui ont suivi, c'est ça. C'est en fait peut-être de redonner un sens pertinent au conflit. C'est un conflit qui est colonial. C'est un conflit qui est impérialiste et il y a des personnes colonisées et un colonisateur. Et on le voit aussi en Cisjordanie occupée, on parle énormément de Gaza, mais en Cisjordanie occupée, il y a des colonies qui sont en train de s'étendre massivement avec des milices armées soutenues par Tsahal. Tout ça aussi est finalement assez peu raconté. Ça questionne aussi le modèle économique des journaux, tu l'as dit tout à l'heure. Qui est propriétaire des médias qu'on regarde, qu'on lit? Qu'est-ce qu'un média indépendant peut fournir de plus? Et une liberté de ton, et c'est déjà énorme. Et une liberté, en fait, de choisir ses sujets et de couvrir de manière plus pertinente les choses et plus complexes. Ramener de la complexité là-dedans, c'est justement lié à ça, quoi.
Puis on a qu'à se dire, pour rester optimiste, que ça a un impact, parce que sinon, ces journaux-là ne seraient pas aussi menacés, justement, par les journaux dominants.
C'est bien sûr, ça a un impact.
Bah, Antoine, merci beaucoup pour ce petit préambule à la soirée, donc, où on l'aura compris. On parlera à la fois de la situation en Palestine, mais aussi donc, du traitement médiatique de ce conflit avec Meriem Laribi et toi, donc, et puis les questions et les participations du public et l'association de l'autre côté aussi.
Que ça se passe au local de l'autre côté, qui est une asso, qui ne bénéficie pas de subventions. Donc c'est important de venir soutenir des lieux qui permettent ce genre de débat. Il y a aussi le collectif Gauche Solidarité, Cévennes Palestine Solidarité, qui va venir parler justement de son action sur les ronds-points, et la librairie L'Arbre Sans Fin qui proposera une sélection de livres. Donc c'est collectif tout ça.
Oui, on peut nommer le fait qu'effectivement, dès qu'ils ont voulu faire des choses publiques, de manière associative, sur la commune de Ganges, on leur a refusé le droit, parce que justement, ce sujet sensible de la Palestine, il ne fallait pas que ça déborde, et donc il n'était même pas question d'en parler, ou en tout cas de faire quelque chose d'officiel. Donc c'est bien aussi que ça ait lieu là, tout à fait. Tu fais bien de le souligner. Ouais.
Merci à toi.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous souhaite une bonne après-midi, une bonne continuation sur les ondes de Radio Escapade, et on se donne rendez-vous mardi prochain.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Oh, mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.